géopolitique.com. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. La guerre commerciale avec les États-Unis illustre la rivalité qui oppose Washington et Pékin, les deux principales puissances mondiales, pour maîtriser les technologies de l'avenir. Cette rivalité sera-t-elle dominée par l'affrontement ? Le défi chinois est, quoi qu'il en soit, un défi de taille économique, géopolitique, culturelle. La Chine se projette dans l'avenir avec une assurance qui tranche sur sa retenue passée et déploie sa grande stratégie pour s'imposer comme première puissance mondiale en reconquérant la place qui était la sienne jusqu'au 19e siècle. Pour l'Occident, quelle attitude adopter à l'égard de Pékin, en dehors de toute fascination ou diabolisation ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Claude Meyer, conseiller au Centre Asie de l'IFRI, enseignant en économie et relations internationales à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'Occident face à la renaissance de la Chine, paru chez Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Joseph Boileau, chercheur associé au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations international, spécialiste du monde émergent et tout particulièrement du triangle Chine-Inde-Afrique, auteur de plusieurs ouvrages, dont Chine d'Afrique, paru aux éditions Odile Jacob également. Bonjour.
Bonjour.
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine riposte dollar pour dollar, mais là, Trump a monté les enchères. La Maison-Blanche va taxer 200 milliards de dollars d'importations chinoises dès lundi, des surtaxes de 10% qui passeront à 25% au 1er janvier. Pékin réplique et taxera 60 milliards de dollars de produits américains. Il y a une certaine inégalité aujourd'hui dans la réplique possible de Pékin. Quel regard portez-vous l'un et l'autre sur cette guerre commerciale ?
Écoutez, nous au CEPI, c'est assez clair. À la fois, bien sûr, on s'inquiète de cette remise en cause totale du multilatéralisme et en particulier donc de la mise à l'écart de l'OMC et des organismes notamment de différents qui avaient été quand même mis en place difficilement. Les États-Unis ont boycotté en réalité cet organisme sur les différents. On pense que là, cette stratégie tit for tat, on ne sait jamais où ça s'arrête. Et donc, les Chinois sont pas des imbéciles. Claude Meyer nous dira à quel point ce sont des gens qui ont une culture quand même millénaire. Donc, ils savent gérer l'art de la guerre. Et donc, ils ont une riposte, vous avez vu, qui est proportionnée. Vous donniez des montants, mais c'est normal que la Chine ne prenne pas 200 milliards et puis je vous renvoie 200 milliards. C'est extrêmement pointu ce qu'ils font. Ça fait très, très mal d'ailleurs. Il ne faut pas voir Trump, je pense. C'est pas Trump. Cette obsession pour l'homme est quand même surprenante. Les États-Unis, c'est un grand pays. C'est un pays où il y a des administrations, il y a une administration fédérale, et donc Trump probablement accentue, mais on sait bien que des dossiers comme ça se sont été préparés depuis des mois et des mois et des mois. Donc la vraie question est pourquoi, et là-dessus notre réponse est assez simple, c'est que il y a maintenant un véritable, on appelle ça le piège de Thucydide, c'est-à-dire je déclenche une guerre préventive contre un pays émergent qui lui-même risque de un jour me rattraper, donc c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide, je déclenche la guerre de façon offensive, donc c'est ça le vrai, notre vraie interrogation, ou bien c'est une stratégie qui, vis-à-vis de la Chine, consiste effectivement à obtenir de véritables concessions. Je note quand même, c'est très important, les discours du gouverneur de la Banque Centrale Chinoise, qui reconnaît que la Chine n'est pas du tout une économie de marché, que la Chine n'a pas respecté ses engagements de 2001, et j'étais moi-même dans la bande des négociateurs, et on attendait quand même des vrais pas en avant de la Chine. La Chine n'a pas fait ses pas en avant, et on s'inquiète de ce que son plan 2025, qui est un plan extrêmement offensif de conquête des contrôles, la maîtrise technologique, ne se traduise par des asymétries un peu trop fortes sur le plan du commerce international.
Claude Meyer, sur cette guerre commerciale entre Pékin et Washington.
Bien évidemment, je suis en désaccord par rapport à cette escalade qui risque quand même pour les deux pays et pour le reste de l'économie mondiale d'avoir des conséquences, sinon désastreuses, du moins importantes. Je suis en profond désaccord avec les arguments avancés par Trump, et notamment la sous-évaluation du yuan. Enfin, ça, c'est le raisonnement qu'on tenait vis-à-vis du Japon dans les années 80. Mais quand même, moi je m'interroge par rapport à comment dire, ce Trump bashing. Je constate que déjà sur la question de Corée du Nord, il a fait bouger les lignes. Et on commence à voir côté chinois sur la guerre commerciale, peut-être certains frémissements. Jean-Joseph, vous l'avez indiqué, de par le gouverneur de la Banque centrale, mais il y a également au niveau des institutions financières étrangères, etc., des réunions à Pékin qui peuvent permettre d'envisager que, en effet, à secouer ainsi le cocotier, si je peut m'exprimer ainsi, il peut tomber un certain nombre de résultats positifs, dont d'ailleurs l'Europe pourrait aussi bénéficier, parce que de ce point de vue-là, les arguments non pas de Trump lui-même, mais de ses conseillers sur ce qui est le déséquilibre fondamental des échanges commerciaux, est tout à fait, je dirais, similaire, où on a absolument la même position. Bon, la position de la Chine, développer des relations bilatérales économiques gagnant-gagnant dans l'ensemble du monde. J'ai fait dans ce livre un tableau exhaustif, comment dirais-je, des déficits et des excédents commerciaux par zone géographique. Et la Chine est gagnante, en effet, sauf avec l'Australie. Donc cette stratégie gagnante-gagnante se révèle quand même très perdante, notamment pour l'Europe et pour les États-Unis.
Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Claude Meyer, pour alimenter finalement un peu votre propos. Dans un rapport tout à fait récent, la Chambre de commerce européenne en Chine attribue à Pékin l'origine de la crise avec les États-Unis. La Chambre de commerce européenne, ce sont 1600 entreprises européennes, parmi lesquelles des grands groupes comme Airbus, Volkswagen. C'est un rapport de 394 pages qui estime donc que Pékin ne joue pas le jeu. Alors, pas seulement déséquilibre sur les échanges commerciaux, mais ça va plus loin sur les implantations d'entreprises, le transfert de technologies. En fait, les Occidentaux sont donc loin d'être les seuls à critiquer Pékin. Il y a aussi les pays du Sud, dont la Chine aimerait être la porte-parole. Le rapport dit que beaucoup reste à faire pour que la Chine devienne une puissance économique moderne. Est-ce qu'on peut parler, Jean-Joseph Boileau, d'une sorte de réveil ? Alors, on a parlé de Trump, il y a aussi l'Europe, mais pas seulement.
Oui, réveil. Enfin, écoutez, c'est pas la première fois qu'on a un rapport pas alarmiste, hein, mais un rapport qui constate tout simplement qu'il y a une asymétrie très forte. Les Européens n'ont absolument aucune démarche commune sur la Chine. C'est pour ça que moi, à la fois le China bashing m'ennuie beaucoup, mais le Trump bashing aussi. Le fait est que la Chambre de commerce, qui est basée à Shanghai, je crois d'ailleurs, c'est un écosystème très très particulier, mais qui ne reflète pas du tout ce qui se passe du point de vue des rapports de l'Europe avec la Chine. Ça n'existe pas, les rapports de l'Europe avec la Chine, et chaque président, chaque premier ministre européen va, comme un petit vassal, visiter la Chine et vendre ses entreprises. Donc, moi, réveil, je n'y crois pas beaucoup, mais par contre, le constat est tout à fait exact. Il y a une asymétrie depuis les années 80. Ma première visite de la zone économique spéciale de Zhuhai à côté de Hong Kong, je rencontre les entrepreneurs japonais, Hitachi en particulier, ça m'a frappé cet exemple-là, où tout était encadré par les autorités chinoises, y compris le personnel, etc. Donc, on a une stratégie d'ouverture qui a été extrêmement contrôlée, qui est aujourd'hui encore plus contrôlée dans un domaine qui fait très mal, c'est celui de la remontée technologique. Alors, moi, je suis assez partisan quand même de Danny Rodrigue, de ses thèses sur... La question est la suivante. Si les règles ne conviennent pas, est-ce qu'il faut accuser la Chine ou est-ce qu'il ne faut pas commencer à réfléchir aussi un peu aux règles ?
Vous pensez à l'OMC ?
Bien sûr. Pas seulement l'OMC, les règles sur la propriété intellectuelle. Et donc, si vous voulez, ces règles qui ont été imaginées dans les années d'après-guerre, 44, pour la fondation quand même du GATT à l'époque, ont été conçues par des pays riches qui n'avaient pas du tout cette préoccupation du rattrapage industriel. Et voilà que dans les années, à la fin du siècle dernier, vous avez des grands pays émergents, donc la Chine, mais aussi l'Inde. L'Inde est extrêmement protectionniste. Arrêtons ce qu'on écrit sur la Chine, peut-être exactement dit à propos de l'Inde ou à propos du Brésil. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, c'est ce que dit Danny Rodrigue, changer les règles parce que on n'a jamais vu de pays émergents décoller, rattraper sans se protéger. Et le vrai sujet est sur la table pour l'Afrique également. Je ne donne pas une once de chance de décollage de l'Afrique si elle ne se dote pas de véritables instruments de protection, ce qu'on appelait les industries dans l'enfance. La France a fait du colbertisme, etc. Ce qui m'ennuie dans ce rapport, alors j'ai pas lu le dernier, mais le précédent, c'est que justement, il n'interroge pas cette logique, si vous voulez, libérale, qui ne convient pas à des pays émergents, qui ont besoin de se protéger. Alors, le problème, c'est que la Chine, c'est très particulier dans sa façon de se protéger. C'est un État parti. C'est un véritable, non pas État totalitaire, c'est pas mon sujet en tant qu'économiste, mais c'est une économie de commandement. Quand je les vois développer leurs projets sur l'Afrique, il y a les banques, il y a les groupes, il y a les politiques, c'est le secteur public qui fondamentalement est à la manœuvre, y compris Alibaba, où c'est très bien qu'il est entièrement aujourd'hui contrôlé par le secteur public. Donc là, on a un sujet qui est comment trouver des règles qui permettent à des pays émergents de rattraper, à des formations sociales et économiques comme la Chine, qui sont pas effectivement des économies de marché. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien ce débat aujourd'hui. Il n'est pas pour ou contre Trump. Il se pose pour le monde entier, c'est comment on redéfinit des règles du commerce international, de la finance internationale, qui permettent aux uns et aux autres de progresser ensemble.
Alors, redéfinir les règles, Claude Meyer, ça s'impose effectivement. Il y a quand même une chose qui me frappe dans ce que dit depuis le début de cette émission Jean-Joseph Boileau, c'est qu'il qualifie toujours la Chine de pays émergent. Alors oui, c'est vrai que les pays émergents ont besoin de se protéger. Tout cela doit durer un certain temps. J'en reviens à ce rapport de la Chambre de commerce européenne en Chine. Ces récriminations, Claude Meyer, elles portent sur trois sujets. Les transferts de technologies que 19% des industriels européens affirment s'être vu imposé en 2017 pour continuer à avoir accès au marché chinois. Deuxième récrimination, le manque de réciprocité en matière d'investissement. Et Jean-Joseph Boileau l'évoquait précédemment, le plan Made in China 2025. Donc la façon dont ce plan, ces 10 technologies clés dont la Chine entend devenir le leader mondial est mise en œuvre. Commentaire, Claude Meyer.
Oui, tout cela est lié parce que le plan Made in China 2025 a aussi pour conséquence, si on regarde les investissements de la Chine à l'étranger, en Europe, notamment aux États-Unis, un certain nombre d'acquisitions technologiques par la Chine, les entreprises chinoises, sont précisément dans l'optique de ce plan Made in China 2025, puisque désormais, alors est-ce que la Chine est encore pays émergent ? Il y a certains critères, le revenu par habitant l'est, mais je dirais du point de vue quantitatif, c'est quand même la deuxième économie mondiale. Donc, je veux dire, les dirigeants chinois sont parfaitement conscients des faiblesses structurelles de l'économie chinoise, et notamment le retard technologique. Et le grand débat, c'est effectivement plein feu sur le rattrapage technologique et, si possible, l'innovation. Quand on voit 80 milliards de dollars mis dans l'intelligence artificielle, ça nous laisse rêveurs. Alors, pour revenir à ce que disait Jean-Joseph Boileau sur le rapport de la Chambre de commerce européenne en Chine, je suis bien d'accord que les règles doivent être revues, mais ça n'est pas le rôle, me semble-t-il, des entreprises de le faire. Et là, on retombe sur le manque de volonté politique et donc technocratique, d'une certaine façon. La faiblesse structurelle de l'Europe, c'est absolument épouvantable et dans tous les domaines.
Tout à fait.
Donc, on a une Europe engluée dans ses contradictions, incapable. Périodiquement, la Commission dit qu'il faut parler d'une seule voix vis-à-vis de la Chine. Ça, c'est la nouvelle stratégie fin 2017. Enfin, il faut lire ce document parce qu'à la lumière de ce qui se passe, c'est quand même surréaliste. Il faut absolument que nous parlions d'une même voix. La Chine peut seulement comprendre si nous parlons d'une seule voix, etc. Oh, quelques mois plus tard, alors dans un autre domaine, à la Commission des droits de l'homme, l'ONU, une proposition de l'Union européenne n'a pas pu être présentée parce que la Grèce, en fonction de ses intérêts économiques, ne voulait pas signer cette déclaration sur les droits de l'homme. Donc, les divergences, elles sont, je veux dire, sur le plan économique, les panneaux solaires, l'Allemagne contre les autres, et ainsi de suite. Il y a 36 exemples, mais surtout, il y a une habileté considérable de la Chine à diviser l'Europe, y compris par ce groupe de 16+1, c'est-à-dire arracher à l'Union européenne des pays d'Europe centrale pour les mettre dans un écheveau assez large de pays qui ont tous intérêt à recevoir les investissements chinois.
Oui, alors c'est justement le propos sur lequel je souhaitais vous amener. C'est vrai que les choses venaient de façon assez évidente. Jean-Joseph Boileau, la Chine joue beaucoup sur ces divisions européennes en utilisant le carnet de chèques d'une certaine manière pour bon nombre de pays d'Europe centrale et orientale.
Vous avez lu l'art de la guerre, non ? On ne va pas apprendre, alors là non pas un singe, mais on ne va pas apprendre à un sage comment conduire une guerre économique. si le mot est un peu fort, d'ailleurs, guerre économique, parce que c'est pas nécessairement une guerre, justement. Je pense qu'il faut éviter absolument ce piège qui consisterait à déclarer la guerre à la Chine, en gros, parce qu'elle émerge. Oui, elle émerge. C'est-à-dire que, du point de vue du clivage nord-sud, la Chine n'est pas dans le nord, non seulement par son PIB par habitant, etc., mais parce que, justement, en termes de niveau technologique, elle l'est encore très en retard dans tout un ensemble de domaines. Là, j'avais les données du rapport du Boston Consulting Group qui montrent que dans l'intelligence artificielle, la Chine, effectivement, qui avait beaucoup de retard sur l'intelligence artificielle, on avait un rapport de 1 à 6 en niveau d'investissement entre les États-Unis, l'Europe est à out, là, hein, et la Chine. Et donc, de ce point de vue-là, elle est encore émergente. Et elle est, ce que dit le Boston Consulting Group, consciente de cela, et c'est vrai qu'on observe des montants d'investissement considérables et que les entreprises chinoises sont aujourd'hui les plus à l'offensive. Ce qui, me semble-t-il, explique qu'on a laissé passer le plan 2025 en 2015, quand il a été publié. C'est quand même pas d'hier, ce plan Chine 2025. Mais que aujourd'hui, compte tenu du rattrapage extrêmement rapide de la Chine dans ses hautes technologies, qui rivalise là plus avec l'Europe, qui n'est plus un acteur, mais avec les États-Unis, c'est-à-dire d'un côté vous avez les GAFAM et de l'autre côté les TCXB, les Alibaba et autres, eh bien, elle est encore émergente et elle émerge. Donc, c'est le mot français. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans un contexte comme cela, lorsque elle joue sur les divisions des uns et des autres? C'est le sujet, problème que vous soulevez. Eh bien, soit on va suivre, c'est ce que vous utilisez comme concept occidental, soit donc vous rejoignez le camp occidental, parce que vous considérez que bon ben vous êtes dans le camp occidental, et donc c'est les États-Unis, le chef de file du camp occidental. Et vous avez vu que dans la guerre commerciale, ils ont relativement bien joué, parce qu'ils ont allumé les Européens, puis ils ont trouvé l'accord avec les Européens. Et aujourd'hui, les Européens sont, je l'observe, plutôt en train de rejoindre les États-Unis sur les coups de poing sur la table. Donc soit vous faites ça, et là, c'est la fin de l'Europe, très clairement. Enfin, la fin du projet européen, parce que le flanc Est, et j'avais beaucoup travaillé sur les PECO, et on le voyait venir, cet américanisme des PECO, eh bien, va évidemment complètement faire disparaître le début du côté allemand et français de constitution, si vous voulez, d'un pôle suffisamment fort. Alors, donc, on va pas pouvoir, vis-à-vis de la Chine, ça, je suis très pessimiste là-dessus, on va pas pouvoir, en Europe aujourd'hui, répondre. Et donc, on va être en permanence obligé de jouer entre négocier avec les Américains et négocier avec les Chinois. Je pense qu'un alignement sur les États-Unis n'est pas une bonne stratégie non plus pour l'Europe. Et donc, il faudra faire, nous aussi, preuve de sagesse dans notre façon. Par contre, il faut que les Français comprennent qu'on ne peut pas ne pas avoir l'Allemagne, l'Angleterre, ceux qui se félicitent du Brexit n'ont pas compris que les Anglais sont partis. Ça ne veut pas dire pour autant que dans le monde demain, les Anglais n'ont pas toute leur place. Les Anglais jouent un rôle très important, notamment dans la course technologique. Les Anglais sont les numéros un en Europe.
Claude Meyer.
Oui. Alors, je me demande, et c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu dans ce livre, s'il n'y a pas quand même, toujours dans le cadre de l'art de la guerre, une possibilité de sortie par le haut d'une certaine façon. Ce que je veux dire, c'est que la Chine est en demande de coopération dans le domaine de la gouvernance mondiale. Pourquoi ? Parce que c'est assez récent qu'elle prétende s'occuper véritablement des affaires du monde, voire éventuellement diriger. Maintenant, la formule de Xi Jinping, c'est « il existe une voie chinoise pour les problèmes du monde », etc. Donc, pour dépasser, je dirais, je vois notre stratégie d'une certaine façon à trois niveaux. Une stratégie au niveau culturel encore insuffisante. La connaissance de l'autre est une condition absolue, à la fois du dialogue, mais aussi de l'art de la guerre. Connaître l'ennemi, si tant est qu'on le considère comme ennemi. Donc, développement des relations culturelles encore à un niveau beaucoup plus élevé. La tenue d'un dialogue économique extrêmement, extrêmement rigoureux, donc on retombe sur nos problèmes européens, et donc le constat que, au niveau politique, le dialogue est absolument impossible. Donc, moi, ce que je propose, c'est un peu outrecuidant. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de dépasser, pour l'instant, ce qui est indépassable, par une coopération dont la Chine pourrait être demandeuse. Et je donne deux exemples.
Je vous propose, Claude Meyer, ouais. Je suis désolée, je vous interromps. On reviendra sur dépasser ces problèmes par une coopération. Ouais. Dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique, nous retrouvons nos invités Claude Meyer et Jean-Joseph Boileau.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, la guerre commerciale avec les États-Unis illustre la rivalité qui oppose Washington et Pékin, les deux principales puissances mondiales, pour maîtriser les technologies de l'avenir. Pour l'Occident, quelle attitude adopter à l'égard de Pékin en dehors de toute fascination ou diabolisation? Nous retrouvons nos invités. Claude Meyer, conseiller au Centre Asie de l'IFRI, enseignant en économie et relations internationales à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'Occident face à la renaissance de la Chine, paru chez Odile Jacob. Et Jean-Joseph Boileau, chercheur associé au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, auteur également de plusieurs ouvrages, dont Chine d'Afrique, paru aux éditions Odile Jacob. Claude Meyer, vous disiez en fin de première partie d'émission que la Chine était en demande de coopération en matière de gouvernance, qu'il existe une voie chinoise pour le monde, et plutôt que d'envisager cette rivalité à proprement parler, dont le risque est aussi qu'elle soit cette rivalité dominée par l'affrontement, vous dites, vous, qu'il faut dépasser tout cela par la coopération. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre façon de voir les choses?
Oui, tout à fait. Ce livre, j'ai essayé de le rédiger comme une forme de, d'une certaine façon, de grammaire du dialogue. Quelles règles suivre et quels objectifs atteindre? Avec un certain nombre de constats que sur le plan économique, le dialogue est extrêmement, extrêmement difficile et il faut absolument que l'Europe, les États-Unis défendent leurs intérêts. Mmh. Les intérêts sont extrêmement importants pour la Chine, mais ils le sont également pour l'Occident, pour les États-Unis et pour l'Europe. Il s'agit de millions d'emplois, il s'agit du standard de vie de millions de personnes. Donc ce dialogue doit être musclé, donc on revient là au problème de la guerre commerciale. On constate donc aussi que le dialogue politique avec la Chine est complètement bloqué et fait nouveau. La Chine, maintenant, qui faisait profil bas, a des prétentions en gouvernance mondiale et aussi commence à donner des leçons assez amères aux démocraties occidentales en présentant le système chinois comme étant la méritocratie avec des résultats extraordinaires, etc. Donc non seulement le modèle politique de la Chine est en contradiction avec le nôtre, mais il y a une forme de promotion par la Chine de son modèle de développement et derrière de son modèle politique. Donc face à ces constats, moi je propose ou j'essaie d'imaginer un renforcement d'une part des relations culturelles, ça me paraît capital, même si on a des relations très difficiles avec ce pays, parce que ces relations culturelles permettent d'approfondir la connaissance, le respect mutuel, qui permet ensuite d'être extrêmement vigoureux. Et là, je fais une référence à l'expérience des jésuites au XVIIe au XVIIIe siècle, qui est de l'aveu des autorités chinoises actuellement, l'âge d'or des relations entre l'Europe et la Chine. Il y a eu un transfert de connaissances dans les deux sens absolument extraordinaire, dont l'Europe des Lumières a bénéficié. Cet âge d'or est terminé, puis les jésuites avaient une vue quand même un peu idéalisée de la Chine. Mais je crois que c'est une expérience intéressante pour effectivement poursuivre un dialogue. Et la proposition que je fais, ou la situation que j'imagine, c'est que, vu le désir de la Chine de plus en plus de jouer un rôle, et un rôle leader dans la gouvernance mondiale, de l'associer aux grands problèmes de la planète. Et j'en vois deux, notamment. Celui du développement de l'Afrique. Enfin, la population de l'Afrique va doubler à 2,5 milliards d'habitants en 2050. L'Europe est directement concernée. Il me semble qu'il y a des possibilités de convergence entre, d'une part, la connaissance du terrain et le soft power européen en Afrique, et d'autre part, la puissance économique et financière de la Chine en Afrique. Le deuxième point, c'est celui du changement climatique, où donc on a eu un changement spectaculaire de position de la Chine par rapport au sommet de Copenhague en 2009. Et donc maintenant, la Chine se veut un leader de la lutte contre le réchauffement climatique. Et on pourrait voir effectivement des discussions très étroites entre l'Europe comme chef de file des pays avancés et la Chine comme chef de file des pays émergents ou en développement pour la mise en œuvre effectivement des décisions de la COP21.
Alors, je rebondis sur le développement de l'Afrique et je me tourne vers vous, Jean-Joseph Boileau. Les 3 et 4 septembre dernier, 53 chefs d'État et de gouvernement étaient réunis à Pékin pour le 7e sommet international Chine-Afrique, espace diplomatique et économique initié par la Chine en 2000. Un véritable exercice d'influence de l'agenda international, un signal diplomatique fort envoyé à l'Occident, comme aussi la visite récente du président du Venezuela à Pékin qui a permis à Nicolas Maduro d'obtenir un nouveau prêt de 5 milliards de dollars remboursables éventuellement en pétrole. Le geste est significatif de la volonté de la Chine de supporter coûte que coûte le Venezuela. Depuis 2008, la Chine a injecté environ 70 milliards de dollars dans l'économie vénézuélienne via des accords pétrole contre prêt. Le Venezuela qui, faut-il le rappeler, cumule plusieurs années de récession, est loin d'être sorti de la crise économique, humaine et migratoire qui a déjà conduit 2 300 000 Vénézuéliens à quitter le pays. Alors, pour l'Afrique, la Chine, sa politique de prêt peut-être davantage que d'investissement, quoique, ou en tout cas limitée dans certains secteurs, et notamment les infrastructures. Pour l'Europe, des effets bénéfiques ? Jean-Joseph Boileau.
Le thème de l'émission, c'est sur quelle stratégie face à cette émergence. Et le cas africain est intéressant. Deux choses. Pour un économiste, nous avons des outils, notamment un outil assez puissant pour expliquer quel devrait être le niveau normal d'échange économique entre deux zones. Aujourd'hui, la part de marché des Européens et des Chinois est à peu près au même niveau. Là, des Européens, pas avec un E grand majuscule, mais avec 27. Or, compte tenu de l'histoire, de la géographie, la part de marché des Européens devrait être 3 fois supérieure. Ça veut dire que l'effort chinois est 3 fois supérieur sur l'Afrique. Ça, c'est le premier point. La question est donc pourquoi les Européens traînent. Le deuxième point délicat, c'est quand même que c'est la Chine qui offre la solution aujourd'hui à ces problèmes dits migratoires qui sont en réalité très largement liés à des problèmes moins de guerre désormais qu'à des problèmes économiques. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que elle met sur la table des moyens considérables pour investir dans des infrastructures, dans la croissance du continent. Or, on sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on veut que les milliards de populations actives de l'Afrique dans les d'ici 2050 trouvent du boulot pour l'essentiel là-bas. C'est la Chine qui fait ça. On voit très peu les Européens. Donc le China bashing, je dis souvent sur l'Afrique, qui est justifié, on va voir, pose néanmoins deux problèmes suivants. Un, c'est de croire que les Africains sont des imbéciles. Or, j'observe que vis-à-vis, dans leur relation avec les Chinois, hormis des cas toujours que l'on prend, si vous voulez, de tout petits pays, de régimes totalement corrompus, comme par hasard, on parle jamais du Nigeria et de la Chine. Et même le Rwanda, contrairement à ce qu'on pense, Paul Kagame, qui est assez admiratif de beaucoup de choses dans le modèle chinois, il a un jour des cas reçu Xi Jinping et le lendemain, Narendra Modi, pour des montants d'investissement qu'il a annoncés, les deux ensemble. Faisons attention.
Modi, Premier ministre indien.
Voilà, ma première réponse là-dessus, c'est ne prenons pas non plus les Africains pour des imbéciles.
Il n'a jamais été question de ça.
Non, mais ce qui veut dire, voilà, regardons comment ça se passe. Les sociétés civiles africaines, notamment, se sont emparées de la question. Bien sûr, il y a des dérapages dans les projets chinois, c'est évident. On voit des dérapages politiques, notamment des soutiens à des régimes. Enfin, Zimbabwe ne serait jamais pu rester comme ça. L'Éthiopie. Même chose. L'Éthiopie a été soutenue à bout de bras par la Chine. Manque de chance, vous avez vu qu'il y a eu un coup d'État, en fait un coup de palais, et les petites ou les méchantes langues disent que c'est les États-Unis qui sont derrière. Donc il faut pas non plus croire que tout est réglé une bonne fois pour toutes. Et puis le dernier point, c'est attention à pas prendre les Chinois pour des imbéciles. Ils vont pas disperser des milliards de dollars dans le monde pour des choses qui tiennent pas la route. Et donc c'est ça leur véritable souci en ce moment, je le vois bien, c'est des projets d'investissement ou des prêts qui sont faits à des régimes qui peuvent pas rembourser. Alors la solution chinoise, c'est de prendre des garanties sur des actifs. Et c'est là où il y a problème. Donc la solution par rapport à ce défi, c'est de dire que la Chine fait cela parce que les cadres multilatéraux, le FMI, Banque mondiale, etc., n'ont pas fait place à ces pays-là. De sorte que la Chine a décidé de ne pas rentrer dans ce jeu multilatéral. Et l'intérêt, je pense, effectivement, des Africains serait d'avoir un cadre multilatéral, mais dans lequel ils aient leur mot à dire. Vous rendez bien compte, l'Afrique n'est pas dans les instances internationales reconnues en dehors de l'ONU où elle a des voix, mais en dehors de cela, dans les grandes instances économique, l'Afrique n'a pas un mot, son mot à dire. Donc la solution, me semble-t-il, à ce défi chinois qui représente beaucoup d'atouts quand même pour l'Afrique, mais aussi des risques, c'est de faire en sorte que le monde émergent ait toute sa place dans les organes de gouvernance de l'économie mondiale, et en particulier les Africains.
Alors, pour en poursuivre sur les Africains, après ça je vous redonne la parole, Claude Meillard, l'Afrique, elle se retrouve finalement dans la même situation que l'Europe, d'une certaine manière, et peut-être l'Amérique latine aussi, sur le thème de la désunion dans la politique à avoir vis-à-vis de la Chine, rapidement, Jean-Joseph Boileau.
Ben oui, le concept chinois, vous savez, maintenant, pour leur compréhension des affaires mondiales, c'est Xintian, le toit du ciel. Et c'est un concept très important, et que le meilleur a raison d'insister sur la question culturelle. Pour nous, en tout cas, scientifiques, la philosophie chinoise, ou les philosophies chinoises, l'histoire de la civilisation chinoise est extrêmement importante pour nous fournir des clés de compréhension. Et ce concept d'une Xintian, c'est cette idée du toit du monde, c'est-à-dire que la Chine ne va pas faire comme la CIA, etc., intervenir, parce qu'il faut faire attention. Bien souvent, la capacité de persuasion de la Chine, c'est aussi la réponse à l'horreur occidentale. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé par exemple dans le monde arabe, mais aussi le néocolonialisme français en Afrique, etc., a permis à la Chine de jouer sur un registre qui est « je vous offre une voie de sortie ». Et donc on a cette conception du Xintian. Et ce Xintian, c'est les gens vont finalement se mettre sous le toit chinois de façon un peu spontanée parce que la Chine apporte beaucoup d'avantages, etc. C'est là où je dis non, parce que nous on sait bien que l'histoire de la philosophie mondiale ou universelle montre que tout le monde est égoïste dans les faits. Et donc la Chine va poursuivre évidemment ses propres intérêts. Donc si on ne reconstruit pas des cadres multilatéraux qui font la place à une Chine qui est devenue la superpuissance mondiale. Attendez, je crois que c'est ça le grand changement. Vous dites la deuxième économie mondiale. Oui, pour nous, économistes en parité de pouvoir d'achat, la Chine est numéro un. C'est la première puissance commerciale. C'est le premier financeur international aujourd'hui. Pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est, on en parlait tout à l'heure. Donc il faut, par rapport à l'émergence de ce deuxième grand, relancer véritablement le multilatéral avec les émergents. Et ça, je pense que les Européens n'étant pas capables de s'unir, je le pense très sincèrement, très honnêtement, dans les 20 prochaines années, leur seule carte à jouer serait de faire venir d'autres émergents, l'Inde et l'Afrique en particulier. Notamment, le siège européen au FMI, c'est toujours pas réglé. Enfin, c'est quand même incroyable. L'Europe a encore quatre sièges.
Il faut dire aussi que l'Afrique a du mal à se mettre d'accord sur son candidat. Les responsabilités sont pas partagées à 50-50, mais enfin, il y a un débat autour de ces questions. Alors, moi, Claude Meillard, Jean-Joseph Boileau le disait, relancer le multilatéralisme avec les émergents. On parlait du plan Chine 2025. J'aimerais qu'on se projette un tout petit peu plus loin. 2049, centenaire de la République populaire de Chine. Selon les prévisions, alors je parle sous votre contrôle, Jean-Joseph Boileau, elle représentera la Chine 20% du PIB mondial, devant l'Inde 15%, les États-Unis 12% et l'Europe 9%. Qu'est-ce que l'on sait de l'usage que la Chine fera de sa puissance, Claude Meillard ?
Alors, 2049, date symbolique, il y a énormément de symboles. C'est l'aboutissement enfin du rêve chinois, de la renaissance de la nation chinoise, dixit Xi Jinping. Quelle sera la situation de la Chine à ce moment-là? Effectivement, vous rappelez en effet les chiffres. Vraisemblablement, l'économie chinoise représentera à peu près une fois et demie l'économie américaine. Mais ce sera, pour les raisons qu'on a dites, une puissance technologique de premier plan et une puissance financière dont on peut penser qu'elle aura enfin libéralisé son système financier et qu'elle pourra mettre en œuvre toutes les possibilités de son épargne extraordinaire. Qu'en fera-t-elle? Alors, c'est la véritable question, et c'est véritablement la question de l'hégémonie. Qu'est-ce qu'on a pu voir au cours de l'histoire? C'est effectivement une succession de puissances hégémoniques. Les États-Unis prenant la place de la Grande-Bretagne, etc., etc. La Chine pose, à mon sens, un problème tout à fait nouveau et un défi beaucoup plus considérable que le remplacement, par exemple, comme puissance dominante de la Grande-Bretagne par les États-Unis. Pourquoi ? Pour la première fois dans l'histoire, on va avoir d'une part un pays continent avec une masse de population tout à fait extraordinaire, et deuxièmement, avec un régime politique qui est antagoniste des autres régimes politiques, ce qui n'était pas le cas pour les démocraties américaines et... Alors, se pose la question, est-ce qu'il y aura effectivement hégémonie chinoise? Et si on regarde l'histoire, ça paraît effectivement probable. On a à chaque fois la Chine qui dit « nous ne cherchons pas l'hégémonie », Deng Xiaoping le disait, Xi Jinping le répète, etc. Je pense pour ma part que s'il doit y avoir hégémonie chinoise, et là on revient sur le Tincha qui était mentionné précédemment, ça sera une hégémonie de nature tout à fait différente à ce qu'on entend et ce qu'on a vécu en Occident. Ça sera quelque chose de beaucoup plus subtil, dont les traits restent à déterminer, de plus en termes de soft power que de puissance militaire, bien que en 2049 la puissance militaire chinoise sera tout à fait considérable, même s'il y a peut-être pas la parité encore. Donc je pense que dans quel but, c'est effectivement reconquérir la place qu'elle avait au début du 19e siècle, de rétablir sous une certaine forme l'ordre tributaire qui était celui de l'Asie à ce moment-là, c'est-à-dire un échange pour la paix dans la région, de reconnaître la vassalité des autres nations contre un certain nombre de bénéfices venant de l'Empire chinois, c'est-à-dire une hégémonie bienveillante et bénéfique pour tous. En tout cas, c'est comme ça que ce système tributaire était présenté, et c'est vraisemblablement vers quoi on se dirigera, me semble-t-il. Et j'en profite quand même pour signaler, puisqu'il a été fait mention de l'aspect intellectuel et culturel, que bon, on a en Chine effectivement un système léniniste absolument épouvantable en termes de répression, de dissidence, de censure, etc. Mais on souligne rarement qu'il y a à l'intérieur des limites qui sont posées par le Parti communiste un débat et un renouveau intellectuel, notamment celui du confucianisme, qui alimente d'une part la légitimité du parti, mais d'autre part qui renouvelle le logiciel du Parti communiste dans sa domination à la fois du pays et vraisemblablement domination mondiale, et cette conception de sous le ciel, Tencha, dans cette vision cosmogonique de la Chine, est un des éléments récents qui, effectivement, fait fureur dans les discours officiels chinois.
Alors, je vais plus loin par rapport à ce que vous dites là à l'instant, et je vous passe la parole, Jean-Joseph Boileau. Il y a en Chine ce qu'on appelle le Gaokao, qui est l'examen d'entrée à l'université, c'est notre baccalauréat français. Mmh. Et parmi les sujets sur lesquels les élèves avaient à plancher cette année, j'ouvre les guillemets, expliquer pourquoi le Parti communiste doit exercer un rôle de leadership sur l'économie, les forces armées, les écoles et tous les aspects de la société, fermer les guillemets. Jean-Joseph Boileau, à
commentaire. Oui, je voudrais, mais pas vocation, dire je suis là totalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit par Claude. Mmh. Si vous voulez, dans Chine d'Afrique, le travail de prospective a consisté à essayer de regarder justement les grandes tendances du monde. Attendez, la démographie est un élément clé. Mmh. La sociodémographie est un élément clé. Il y a quelques années, on disait que le Japon number one, rappelez-vous de cela. C'est vrai que la Chine n'est pas le Japon, que c'est plus grand. Oui, mais quand même, chaque visite que je fais en Chine, je vois ce phénomène de vieillissement. Donc moi, ma prospective, elle est la suivante. S'ils sont très pressés, c'est qu'ils savent que les jours sont comptés. Je ne pense pas que la Chine mettra en place les instruments de domination du monde dans le délai qui nous sépare du vieillissement considérable de la Chine. Plus du tiers de la population a plus de 60 ans. Au-delà de ce vieillissement, il y a d'autres acteurs qui arrivent quand même. L'Afrique va être beaucoup plus dynamique que la Chine dans les années à venir. Qui est-ce qui est en train de coloniser finalement la Chine d'une certaine façon? Ce sont nos commerçants africains. Et puis ce sont des sages, ce sont des gens qui ont de la philosophie, qui sont excellents au jeu. Vous savez, il y a le jeu de Go qui est bien connu, mais tout le monde oublie le fameux jeu africain. Mmh. Oui. Et puis l'Inde, elle existe quand même. Mmh. Elle va dépasser la population chinoise. Donc moi, je crois qu'on s'inscrit. C'est pour ça qu'il faut pas faire du China bashing, à mon sens. Mmh. Il y a une période, effectivement, une fenêtre d'opportunité où ils veulent s'installer, où il y a des problèmes au niveau mondial, de discussion, trouver des accommodements pour qu'il y ait un vrai Cynthia, non pas chinois, mais multilatéral. Mais je ne m'inquiète surtout pas pour l'avenir, je dois vous dire.
Alors Claude Meyer, vraiment très très rapidement.
Oui, je crois que chacun défend ici un peu sa paroisse. Sur ce qui est de l'avenir économique de la Chine, bien sûr que le vieillissement est quelque chose de très préoccupant, qui aura un double effet, diminution de la population active, fardeau financier considérable en termes de santé et de retraite. Ok, mais n'oublions pas ce qu'on a dit. dit sur le plan Made in China, l'intelligence artificielle, etc. Les progrès en termes de productivité de l'économie chinoise, conformément à d'autres économies, vont être absolument considérables.
Ah ben les robots vont s'occuper des vieux.
Oui, donc on a besoin d'une moindre population active, donc ça ne change personnellement pas pour moi les perspectives qui me semblent s'ouvrir pour la Chine.
Bon, le débat était loin d'être terminé, mais le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Merci Claude Meyer. Je rappelle que vous êtes conseiller au Centre Asie de l'IFRI, enseignant en économie et relations internationales à Sciences Po et auteur de L'Occident face à la Renaissance de la Chine aux éditions d'Il Jacob, et Jean-Joseph Boileau, chercheur associé au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, et auteur de Chine d'Afrique, paru également aux éditions d'Il Jacob. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, nous serons à Nantes pour le rendez-vous annuel des géopolitiques de Nantes.